C'est exact.
C'est-à-dire que si la relation à la galoute nous atteint dans notre identité par filiation, les enfants de Joseph seraient les enfants de la femme de Poutiphar. Alors là, c'est dangereux, effectivement. Tandis que si c'est la relation inverse, et il est bien évident que Israël a un message à porter en tant que Joseph, en se mettant au service de la civilisation du temps pour la sanctifier. Voilà. Là, le pharaon l'a compris, il a dit, il y a un seul premier ministre qui va nous sauver, c'est Joseph, parce qu'il est hébreu. Dans tout ce récit, il entend parler de Joseph comme Narav Ivri, un enfant hébreu. Joseph n'a pas réussi, mais c'est sa tentative. C'est certain. Bon. Bien oui, je vois la montre. Alors, nous prenons la... nous prenons donc la page... Nous allons faire cette référence en m'appuyant sur la page 23 aussi. Et puis vous garderez d'ailleurs les textes. Et puis, nous allons voir quel rôle joue le fait que les Hashmonaïm ont institué que cette commémoration se ferait à travers la menorah et pendant 8 jours. Bien. Alors, c'est Shabbat, Kaf Alef Bet. Mai Hanouka. Qu'est-ce que c'est que Hanouka? Et le mot de Hanouka en hébreu signifie inauguration, ré-inauguration. Les Tanou Rabana, c'est qu'on nous enseigne. B. Kafé de Kislev, le 25 jour du mois de Kislev, Yomé de Hanouka. Tminia Inoun. Les jours de Hanouka sont de 8. Dès lors, l'hémisphère de Béon, on n'a pas le droit de prendre le deuil. C'est plus précis que prendre le deuil. C'est faire un...
Oraison
funèbre de deuil. Okay. Mais dès lors, l'éternel Béon, on n'a pas le droit de jeûner. C'est-à-dire, ce seront des jours de fête où on interdit un comportement de deuil. Keshenichnesu, et voilà l'histoire. Keshenichnesu yavanim laechal. Lorsque les Grecs ont pénétré jusque dans le sanctuaire, le sanctuaire, vous avez votre page.
C'est pas du marat, c'est un texte qu'on m'a donné pour simplement.
D'accord, oui. Ça, c'est un texte que Michel a préparé pour que vous voyez. Vous allez prendre ici le grand schéma. Le Hechal se trouve là et reproduit en grand ici. Lorsque les Grecs ont pénétré dans le Hechal, dans le sanctuaire qui se trouve à l'intérieur du temple, des cours du temple, ou Kolashmanim. Ils ont rendu impures toutes les huiles. Alors, je vous mets ce mot au tableau. Shebehechal, qu'il y avait dans l'Echal. Je vous mets ce mot au tableau, parce que nous allons nous en servir tout à l'heure.
Le mot Shmanim.
Shmanim, ok, les huiles. Shemen, c'est l'huile, et au pluriel, Shmanim. Et... qu'il y a dans le Echal, dans le sanctuaire,
qu'il
y avait dans le sanctuaire.
Ou
chez Gabra Malchut Bet Hashmonaï, et lorsque le gouvernement, Malchut ici ça veut dire littéralement, premièrement Malchut, souveraineté, deuxièmement un empire, et troisièmement l'institution qui est véhicule de cette souveraineté, c'est donc le gouvernement. On pourra dire d'autre part la dynastie, le régime, ce que vous voudrez, mais c'est Malchut, le fait qu'il y ait souveraineté politique. De la maison de Hashmonaïm, je vous mets le mot au tableau, Hashmonaïm. Vous voyez que des ressemblances commencent à apparaître. Ve Netzachum, et ils les ont vaincus, aux Grecs, Batku. Ils ont fait une Bedika. Bédika, ça veut dire une vérification. Ils ont vérifié, Batku, Velomatsu et la Pach Echad. Et ils n'ont trouvé qu'une fiole. Et Pach, c'est une petite fiole. C'est le mot Pach, qui a comme valeur numérique, bon, peu importe, mais qui est l'inverse de Kaf. Bon, je ne sais pas si on va arriver jusque-là, mais je vous mets les données. Pach Echad, Shel Shemen, une petite fiole. D'huile, chez Ayamunach, Bechotamo, chez le Kohen Gadol, qui était mounard, déposé, un peu dans le sens de ils l'ont oublié, ils n'ont pas trouvé. Mounard, vis-à-vis. Mounard, c'est dans un coin, comme ça, je fais. Mais avec le sceau du Kohen Gadol. Ça veut dire que la plus grande sainteté, la plus grande authentification de sainteté. Velo Ayabo et l'Aléadli Kyomechad. Or, il n'y avait, j'interprète un peu, pour rendre la chose peut-être un peu plus claire, il n'y avait d'un point de vue naturel, si nous n'étions soumis qu'aux lois du déterminisme qui fonctionnent comme elles fonctionnent, il n'y avait en fait possibilité que pour allumer un jeu. Narasa bo nes. En cela, il y a eu un miracle. Vidliku mimenu shmonayari. Et ils ont allumé de cette ville pendant 8 jours. Jusqu'à un point. Les shmonayari. Shmona. Et les shana acheret. Les shana acheret, l'année d'après. Kab'oum ve'asa'oum. Ils les ont fixés dans le calendrier, ces 8 jours où lui il a brûlé. Ve'asa'oum yamim tovim behalel ve'oda. Et ils les ont institués comme fête, yamim yom tov, comme fête, behalel, de louange, ve'oda, et de remerciement, reconnaissance. Ça nous avons étudié hier sur terre. Alors là, étant donné le peu de temps que nous avons, je ne peux avoir que comme méthode de vous analyser en survol l'explication du Maharal, mais cependant, je veux quand même que nous lisions ensemble, notre citation que vous avez à la page Gavrimel, et on reviendra sur la première. Là, ça vient de signaler au début du deuxième paragraphe de la première colonne. Voici quel est le point de l'enseignement du Maharal. Le Maharal va nous établir que tout rite qui est fixé sur le nombre 7 et donc a pour temps 7 jours se réfère à la relation à Dieu à travers les lois de la nature, à travers le déterminisme. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais dès que nous avons affaire à un rite qui va jusqu'au 8e jour, c'est qu'il y a là une relation à quelque chose qui transcende le déterminisme et la nature. Et je reviendrai sur ce symbolisme des 6 jours, 7 jours. Et le 8e, qui est un symbolisme messianique, puisque la conclusion du Maharal, ce n'est pas pour rien qu'elle sera l'invitation au Mashiach. Voilà ce qui est écrit dans Vaïkra Rabba, Kafalef, et voilà comment le grand prêtre avait le droit de rentrer dans le Saint des Saints, la partie supérieure dans le Echal que vous avez dans votre schéma, dans le Kodesh HaKodesh. Bezot, dit le verset, Bezot Yavo Aaron et la Kodesh. Voilà avec quoi Aaron, le grand prêtre, rentre dans l'endroit de sainteté. Et il n'y a pas ici l'endroit de sainteté et la Kodesh, dans la chose sainteté, dans le niveau sainteté. Qu'est-ce que ces autres? Et le verset se trouve dans Vaïkra 16, 3, Bezot Yavo Aaron et la Kodesh. Bezot, avec cela. Il s'agit, dans le contexte de Vaïkra, du sacrifice avec lequel Aaron, du par, avec le par, chor, avec lequel Aaron va entrer pour réaliser le culte au niveau de la sainteté. Mais voilà ce que le Midrash dit. Bishrut Amila, il s'agit en réalité, c'est relié du moins, au mérite de la circoncision. Chenehemar ba, tout de suite, vous comprenez, circoncision au 8e jour. Chez Nehemar, à propos de laquelle il est dit, dans la Genèse, verset, chapitre 17, verset 10, Zot beriti asher tishmeru. Voici mon alliance que vous observerez, que vous préserverez. Et donc, il y a un lien entre le niveau de sainteté auquel peut accéder le grand prêtre, et d'autre part, un lien avec la circoncision. Et ici, le mot brit, alliance, qui concerne cette disposition du culte que le grand prêtre n'a pas le droit d'entrer au Kodesh HaKodashim sans cette brit, sans cette alliance, c'est relié à l'alliance de la circoncision. Brit, brit. Qu'est-ce que c'est que cette alliance de la circoncision? Alors voilà l'explication générale du Maharal, mais gardez les pages et vous l'éduquez pour vous-même. Maintenant, je crois que ça peut être décodé, si j'ose dire ceci. Et il faut nous référer au récit de la création, où nous voyons que Dieu crée le monde et puis l'organise pendant 6 jours, et le 7e jour commence le temps de l'histoire de l'humanité. Adam Arichon, le premier homme, apparaît dans l'histoire, sortant du 6e jour pour entrer dans le 7e. Dès que l'homme entre dans le 7e jour du monde, le monde prend l'apparence déterminée de la nature. Pourquoi ? Pour que l'histoire de l'homme puisse commencer. Pourquoi ? Parce que l'histoire de l'homme, c'est l'histoire du projet moral. Il faut qu'il y ait liberté, et pour qu'il y ait liberté de l'homme, il faut qu'il y ait déterminisme du monde. Là, je schématise un séminaire que nous avons eu d'autre part. Alors, vous voyez quel est le rythme de l'être créé pendant les 6 jours, je ne parlerai pas aujourd'hui, ça nous mènerait trop loin. C'est l'être de conscience magique. Mais l'accès à la modernité, comme nous dirions nous en langage contemporain, se fait pour le premier homme dans l'entrée dans le 7e jour. Le 7e jour, Dieu fixe le fonctionnement du monde au niveau du déterminisme que la pensée humaine va pouvoir étudier, mais étudie le fonctionnement, le tifkut, comment dire ça en français, le mamache, le fonctionnement, le monde fonctionne, le metafket. Okay. C'est un monde stabilisé dans ce que finalement, ensuite, la conscience humaniste va formuler dans cette catégorie du déterminisme. Mais c'est très différent de voir un déterminisme originel que de voir un déterminisme second qui donc peut être suspendu. Un déterminisme second peut être suspendu. Et par conséquent, dans ce rythme de pensée, 6 jours, le 7e, et le 7e, c'est le temps de nature, alors la notion de miracle est possible, qui ouvre la petite porte de où on devine l'incognito du Créateur. Mais dans la relation au monde, qui est purement celle de cette fenêtre ne s'ouvre pas. Cette fenêtre qui s'ouvre, c'est le 8e qui se laisse deviner. Et par conséquent, chaque relation au chiffre, au nombre 8 par rapport au rite, est une relation à la transcendance de la volonté libre du Créateur. Et donc, pour nous, au 8e jour qui viendra après le 7e et qui est le temps messien. Bon. J'ai parlé français et c'était pas simple pour vous exprimer cela. Je voudrais quand même dire un point de méthode. Depuis quelques années, un peu partout paraissent des textes délirants qui font des analyses d'associations d'idées sur des notions de Torah ou pas Torah, Kabbalah ou pas Kabbalah. Enfin, les mots en français recouvrent des choses d'ordre beaucoup plus psychique qu'autres. Et je dis les choses gentiment. Qui vous font des analyses de numériques ou pas numériques, et puis des vous voyez ce que je veux dire. Bon, eh bien, alors faites bien attention. Nous avons étudié le Maharal. Le Maharal, c'est pas un petit gamin d'aujourd'hui cherchant à faire un phénomène de librairie sur un sujet juif. Vous voyez ce que je veux dire, ce que je veux pas dire, d'ailleurs. Eh bien, c'est le Maharal. Le Maharal nous dit, faites bien attention. Dans l'ordonnance des rites de la Torah, lorsqu'un rite se réfère à 7 jours, alors ça se réfère à la relation au monde déterminée, Dieu n'intervenant pas par miracle, par des miracles, et nous sommes dans le temps de l'histoire, de ce qu'on appelle Olamazé, le temps de l'histoire, qui n'est que provisoire bien que nécessaire, qui est le temps où le monde va prendre cette apparence absolue d'un déterminisme qui fonctionne par lui-même pour que l'histoire se développe et que la conscience morale puisse être libre et donc jugée sur ses options morales, ce qui nous mène à la fin du 7e jour, lorsque le 8e jour commence, c'est le temps messianique où la transcendance se révèle. Elle se révèle à travers le chiffre 8. Et c'est pourquoi nous dit le Maharal, premièrement, la circoncision. Pourquoi le Midrash va tout de suite citer la circoncision comme rite du 8e jour. Et ensuite, nous verrons à quel point Hanouka est une fête messianique absolument, pourquoi les Maccabis ont institué, et à partir de maintenant, la menorah de Hanouka, c'est 8 lumières, et plus 7. Une petite, de Hanouka, je veux dire, une petite parenthèse. C'est que dans les synagogues traditionnelles, on ne met jamais un chandelier à 7 branches. Vous avez toujours des chandeliers à 8 branches, ou à 9 branches, ou à 6 branches. Vous avez remarqué cela. Entrez dans une synagogue traditionnelle. Pourquoi ? Parce que nous avons une règle, qui vaut aussi pour d'autres rites, qu'on ne refait pas, en dehors du temple, un des kélim du temple. Par exemple, dans certaines communautés, et c'est un minhag important, on ne prend pas d'agneau grillé le jour de Pessah. Pourquoi ? Parce que ça pourrait faire ressembler au sacrifice de Pessah qu'on ne peut pas faire puisqu'il n'y a pas le temple. Il y a certaines communautés, au contraire, où d'Afka, on prend de l'agneau grillé. Faites attention, chacun le rite de sa communauté. Parce que dans cette communauté-là, au contraire, on est très lucide qu'on sait très bien qu'on n'est pas en train de faire le sacrifice de Pessah, mais on veut quand même se rappeler. Ce sont des coutumes de famille qui sont devenues des coutumes de communauté. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais par conséquent, si dans une synagogue, vous trouvez un chandelier à 7 branches, vous n'allez pas mettre le feu à la synagogue. Peut-être pour d'autres raisons, mais pas pour celle-là en tout cas. Mais je disais ça en passant. Et alors, pourquoi la circoncision ? Et alors là, c'est tout un thème très important, mais vous avez dans le Maharal l'explication. La horla, c'est-à-dire le prépuce de la horla, je ne sais pas comment dire ça en français, je vais être très allusif avec elle, c'est le signe du conditionnement physique absolu qui fait de l'homme comme un animal, en particulier au niveau du comportement de la jouissance, de la volupté, et de l'appétit de jouissance. Or, précisément, la circoncision, c'est le tikkun de l'être naturel de l'homme au niveau corporel, et l'alliance de la circoncision est une alliance messianique qui met l'homme circoncis au niveau déjà, en relation déjà avec le monde du 8e jour. Bien, il y a là un thème que les savants contemporains, biologistes, psychologues, certains ont peut-être touché un peu à cela, mais à la manière des universitaires de l'histoire des religions, qui nous ramènent ça à des rites genre société primitive. Vous voyez ce que je veux dire ? Faites bien attention à cela, les rites de castration, toutes ces histoires-là, c'est vraiment extérieur à ce que le Midrash enseigne à ce propos. Il s'agit d'une conduite rituelle qui va mettre l'homme, le sortir du niveau 7, du niveau naturel, pour le mettre face à face avec son créateur. Comment ça fonctionne ? Lisez l'histoire. Voilà. Je pourrais vous dire en vrac des tas de problèmes. Statistiques de prix Nobel. Après tout, il y a un problème. Peut-être c'est relié aussi au fait d'avoir été circoncis pendant des milliers d'années. Mais je vous donnerai simplement j'ai dit statistique. Je vous donnerai simplement une indication sémantique. Le mot de circoncire en hébreu se dit la moule, moule. Qu'est-ce que ça veut dire moule en hébreu ? Vis-à-vis, face à face. Bon, vous comprenez l'implication qu'il y a qui est très importante. Et le Midrash nous dit, voilà, le Lashon HaKodesh, le langage de la sainteté, n'est compris que par ceux qui sont circoncis. Je vais vous raconter un Midrash précisément à propos de Joseph. Ça me rappelle une question que j'ai posée une grave fois. Nous étudions dans le Rambam, nous étudions les Hilchot Mamrim, et alors on est arrivé à ce point, il est interdit, en étudiant en hébreu, il est interdit d'enseigner la Torah aux incirconcis. Alors on lui avait demandé, Mazé Asou, il est interdit. Ils ont regardé un petit sourire, il a dit Iefchar. C'est-à-dire, c'est pas possible. Et puisque c'est pas possible, c'est interdit. Vous avez compris la relation. Asou, Iefchar. Bon, qu'est-ce que ça veut dire cela ? Et encore une fois, dans ces problèmes, l'identification individuelle, c'est un problème de diagnostic. Il faut faire un shelah shuvah au beddin. Vous comprenez ? Je veux dire, chacun, c'est un monde en soi. Mais la règle est ainsi. Et l'expérience, bon, c'est pas possible. D'accord. On a essayé d'apprendre la Torah aux Grecs. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti les septembre et tout ce qui vient après, etc. Bon. Et alors, voilà ce qui se passe. Lorsque Joseph va se dévoiler à ses frères, va dire, je suis Joseph, votre frère. Allez le dire à mon père, et vite, okay, à Jacob. Et lui, le temps messianique est arrivé. Alors, il le dit comme ça. Enechem ro, ve'ene achi binyamin, she pi hamdaber alechem. Ça veut dire, vos yeux voient, et les yeux de mon frère Benjamin que c'est ma bouche qui vous parle. Allez dire que c'est bien moi. Et voilà comment c'est formulé. Enechem ro, ve'ene achi binyamin, ki bin adaver alechem. Je vais rassembler ici tout un rachis très important. Et pour vous l'expliquer de la manière suivante. Et cette explication, je le tiens du Rav Ashlag, lui-même. Pas celui des livres, c'est son père, mais le fils. Et il y a deux Rav Ashlag, ce fils, c'est celui de Bnei Brak. Un jour, on s'est rencontrés à Jérusalem. Bon. Et alors, voilà l'explication qu'il a donnée. Rachid dit ceci. Vos yeux voient que je suis circoncis. Vous êtes bien. Vos yeux voient que je suis circoncis. Et les yeux de mon frère Benjamin, et les yeux de mon frère Benjamin, que je n'ai pas de haine. Voilà le raisonnement. De même que mon frère Benjamin n'était pas, lorsque vous m'avez fait mon procès, et donc je n'ai pas de haine pour lui, de même je n'ai pas de haine pour vous. C'est clair ? Donc, premièrement, vos yeux voient que je suis circoncis. Deuxièmement, et les yeux de mon frère Benjamin, que je n'ai pas de haine. Enli sina, ki pim daber alechem ben hashon hakodesh, que je vous parle en hébreu. Or, l'accusation que Joseph avait portée sur ses frères, c'était dans le début de la paracha qu'on a lu hier matin, c'était l'accusation grave sur ces trois grandes fautes. Que il ne mangeait pas kasher, c'est shfichut damim, c'est dans le sens de ben adam la chavero shfichut damim. Qu'il fréquentait les idolâtres, vous vous rappelez de cela. C'est, ils ne parlent pas la Shana Kodesh, et qu'au marché, ils vendent leurs produits aux femmes cananéennes, et que Gilou Arayot, ils sont comme des incirconcis. Et je vous ai dit, j'ai schématisé, mais c'est pour prendre les trois. Or, le principe, c'est que Joseph va être mis en jeu, en épreuve, sur les trois accusations qu'il a fait contre Seth. Et ce sont les trois épreuves de la galoute. Les trois épreuves de la galoute, c'est de revenir en faisant la preuve qu'on parle la Shana Kodesh, qu'on est circoncis et qu'on n'a pas de haine. Et c'est un thème pour lui-même, et vous comprenez cela. Qu'est-ce qui est mis en jeu? Alors, Joseph dit, le moment est venu, je peux vous dire que j'ai gardé ces trois valeurs. Vous voyez la relation entre celui qui est circoncis et celui qui est capable de la Torah. Or, comment le dit Joseph dans ce midrash que cite Rachid, vos yeux voient sur ma figure que je suis circoncis. Il y a donc une relation entre moule et moule, panim el panim. Est-ce que c'est clair? C'est un peu chassidique la manière dont j'ai formulé, mais le Shoresh est dans le midrash, rassure-toi. C'est très clair. Il y a un lien très étroit dans ce fait-là que c'est Abraham qui est le premier homme de l'alliance avec le Dieu unique créateur qui va fonder la conscience morale et la circoncision. C'est-à-dire que la circoncision va nous mettre au niveau 8. C'est pourquoi le rite de la circoncision, c'est le 8e jour. Et vous savez que cette règle est très importante. Il y a aussi d'autres raisons du Nistar, cette fois auxquelles je ne veux pas toucher, mais c'est ceci, c'est qu'à moins de cas de force majeure, la circoncision, et alors là, la circoncision peut se faire n'importe quand, s'il y a un cas de force majeure. En général, les moralines savent que s'il y a la jaunisse, ça peut être dangereux et donc retarde la circoncision, mais à moins de cas de force majeure, si l'enfant est en bonne santé, la circoncision à 8 jours ne ressemble pas à la circoncision à un autre jour. Et Dafka, lorsqu'elle se fait à 8 jours, elle a un ta'am important. Je dis ça parce que énormément de juifs qui tiennent à la circoncision, mais tiennent aussi à inviter leurs amis, en général, s'arrangent pour le faire le 8e jour de la semaine, le dimanche, mais pas le 8e jour de la circoncision. On peut très bien faire la circoncision le jour où il faut et faire la réception le dimanche, ça c'est pas un problème. On peut même faire la réception cachère, après tout, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons là un premier exemple. C'est que le rite au niveau 8, c'est ce qui fait du juif, dans le sens strict, un homme surnaturel. Et ça ne veut pas dire qu'il ne vit pas dans le monde du septième jour. Bien sûr, il vit dans le monde du septième jour. Il est relié au monde au niveau du septième jour, mais il est déjà donné qu'Israël, Israël, Chelek, la Rama. il est déjà donné au 8e jour. C'est cela que montre. Donc, va nous dire le Maharal.
C'est pour ça qu'on peut faire la circoncision au 8e jour, même quand ça tombe un Shabbat, même un Yom Kippour, le Shabbat, parce que c'est du même niveau.
Et donc le Maharal va nous expliquer cela. Les Maccabim ont diagnostiqué qu'il y avait là une intervention de salut en au-delà des forces naturelles. Je m'explique. C'est-à-dire, les Grecs ont voulu ramener l'indice 8 d'Israël à l'indice 7. Et c'est précisément là où le conflit était le plus grave. Parce que si Israël avait disparu, la lumière disparaît du monde entier, explique le Maharal. Ça nous a expliqué dans les premiers cours. Il n'y aurait pas eu d'espérance de salut dans le monde si cette identité hébraïque avait été hellénisée. Et alors, j'ai expliqué ça un peu autrement à un des cours du Shabbat. Bien sûr, nous savons que ce n'est pas possible puisqu'il y a une alliance. Mais à quel prix ? Et chaque fois que nous vivons l'épreuve, c'est comme si ça allait arriver. Quoi, j'ai donné la référence du sacrifice d'Isaac, entre guillemets. Le sacrifice d'Isaac n'a pas eu lieu. Mais jusqu'à ce qu'il n'ait pas lieu, tout se passe comme s'il allait avoir lieu. C'est-à-dire, lorsque nous vivons l'épreuve, elle est totale. Mais nous savons parfois qu'il y aura une issue, que ce n'est pas tragique, que c'est dramatique plus, mais que ce n'est pas tragique et à quel prix. Mais je voudrais quand même ajouter, ça pourrait être suffisant, trop, tellement consolant, qu'à l'échelle individuelle, on va se dire, bon, shalom alay nafshi, que le klal s'en occupe, puisque l'alliance est avec la collectivité d'Israël, que la collectivité d'Israël s'en occupe, il y aura toujours quelqu'un pour faire ma part de travail. Non, faites bien attention à cela. L'alliance est inconditionnelle pour la collectivité. Mais pour que chacun d'entre nous participe de cette collectivité, il faut que chacun d'entre nous le fasse. Vous comprenez ce que je veux dire ? Par exemple, dans la confiance de la venue du 8e jour qui inaugurera le Mashiach, eh bien, dans cette confiance, il y a à la fois certitude absolue et incertitude absolue. Où ? Comment ? Certitude absolue que ça arrivera pour Israël. Mais incertitude absolue si ça arrivera pour moi en Israël. Vous voyez de quel dialogue. Ceci dit, là, à l'échelle humaine, nous ne pouvons pas savoir. Dieu seul connaît Hoker Klayo de Valère. Dieu seul connaît qui est qui. Peut-être que quelqu'un qui apparemment apparaîtrait comme ne méritant pas, méritera quand même parce qu'il est le quelqu'un fils de fils de fils de fils de fils de cette lignée-là et pas du nôtre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Nous ne pouvons pas savoir qui est qui. Il faudrait plonger dans l'inconscient de chacun jusqu'au premier homme. Et ça, c'est en dehors de notre jugement. Mais la dialectique d'inquiétude reste la même. La foi est faite d'une quiétude absolue et en même temps d'une inquiétude absolue. Parce que, quiétude absolue que ça arrivera, mais est-ce que ça me concernera ? Et alors, chacun est à un niveau différent de ce dosage de quiétude, inquiétude. Enfin, vous comprenez ce que d'exprimer, ce n'est pas simple. Mais lorsque nous sommes tous ensemble, Kol Israël, Yeshtalayim Chalitoran Abba, lorsque nous sommes tous ensemble, vers Merkulam Sadikim, c'est là que la pente, le tzad, le côté, certitude absolue réapparaît. Et là, on en arrive donc à la relation entre 8 et Hanouka, à proprement parler. Je vais ajouter encore un autre point avant d'arriver, mais rappelez-moi à 8 l'huile. Le Maharal a donné une autre manière de voir que précisément il y avait dans Yavan la possibilité d'arriver jusque dans le sanctuaire, le Hechal, pour y porter la Touma. Il le montre de la manière suivante. La valeur numérique du mot de Echal. C'est 65. C'est la valeur numérique du mot Adonai, d'ailleurs, écrit comme ça et sans vav, 65. Et c'est enseigné à propos d'un verset du prophète Habakkuk. Hashem be'echal kocho has lefanav kol haaretz. Has, silence, ça c'est dans le verset de Habakkuk. Has, à comme valeur numérique, 65. Bon. Et alors, le Maharal nous dit, il y a si le Hechal est au niveau purement naturel, d'une manière interprétée possible, alors il y a chez Yavan un indice plus. La valeur numérique de Yavan, ça vous fait combien?
60.
6.
6. Voilà. Alors, étant donné que Yavan, c'est 66, il peut arriver jusqu'au Hechal, mais il ne peut pas arriver au Kodesh HaKodashi. Le Kohen Gadol, là. Là, le Kohen est plus fort. Et c'est pourquoi, quelle huile a été plus forte que les Yavanim? Celle qui était avec les stampilles du Kohen Gadol, pas n'importe qui, pas n'importe quelle, vous avez compris, quel, celle du Kohen Gadol. Quel, c'est clair ce que je dis là. Et alors, parce que là, c'est là le Kohen Gadol, qui est dans l'intimité du Kodesh HaKodashim, il rentre chez son père comme un fils rentre chez son père, mais ne peut rentrer qu'avec Zod. Il peut rentrer qu'avec elle. C'est-à-dire qu'avec ce signe, qu'il est vraiment au niveau 8, c'est-à-dire au niveau du fils par rapport à son père. Même un Kohen, Hediot, ne rentre pas dans le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire, c'est vraiment, à chaque génération, celui qui est le plus proche de ce niveau, de la tête de proue, si j'ose dire, de ce niveau de sainteté, c'est lui qui porte ce flambeau des 8, si j'ose dire. Les autres ont le flambeau des 7, qui reste dans le Hechal. Mais dans le Kodesh HaKodashim, là, le Kohen Gadol. C'est très important de voir que cette révolte contre le fait que Yavan était plus forte que le Hechal, cette révolte est venue du Kohen Gadol, les Hashmonaï, okay, Matatiaï.
Bon. Un mot, oui. Le Maharal fait remarquer aussi que le Kohen Gadol, pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim, mettait 8 vêtements.
Oui, oui, c'est
juste. Alors que le Kohen, il en met.
Et aussi, oui.
Le 8 se retrouve partout.
C'est juste. Simplement, je vais vous montrer, c'est pas un feu d'artifice, une relation, c'est que le fait que le mot de Shemen va donner, c'est relié à l'adjectif Shemoneh. Vous voyez, dans lui-même, il y a quelque chose qui est relié.